15h32 à Boulevard dans la circulation. Audrey.
Il y a des problèmes sur la capitale, direction ouest à la hauteur de Robert Bourassa, direction ouest et surtout à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa Nord, ça commence à ralentir entre Charest et la capitale. L'entrée du pont Pierre-Laporte, quand même difficile. Là, il y a un petit accident à l'entrée du pont, ce qui fait que ça ralentit quand même pas mal. Puis la 20 direction ouest, c'est concentré à la hauteur de Taniata pour l'instant, évidemment. Quoi que ce soit, 88-971-1021, texto.
Le 31 août, c'était la journée internationale de sensibilisation aux surdoses et des intervenants du milieu se trouvaient à Québec pour en discuter. C'est un timing où la discussion est plus chaude que jamais parce qu'on a vu passer des chiffres. Je pense que c'était pas mal au retour de vacances qu'on a vu passer des chiffres, oui, pour le Québec, mais pour la ville de Québec, plus précisément. On nous dit que depuis le début de l'année, depuis le début de 2024, la santé publique de la capitale nationale estime que la région de Québec a connu 32 décès par surdose. C'est plus du double que les 15 observés à pareille date l'an dernier. On le sait, il y a des inquiétudes qui ont monté à Québec et avec les inquiétudes, ben il y a des questions qui arrivent aussi. Puis on voulait parler à quelqu'un du milieu qui était peut-être capable de nous éclairer au-delà des chiffres sur qu'est-ce qui se passe à Québec, c'est quoi les besoins, c'est quoi qui a changé aussi, puis voir s'il faut soit s'inquiéter davantage ou se rassurer un petit peu plus. Rachel Genet est DG à la Maison d'entraide l'Arc-en-Ciel. Madame Genet, bonjour.
Bonjour.
La Maison d'entraide l'Arc-en-Ciel, c'est quoi?
Maison d'entraide l'Arc-en-Ciel, c'est dans Saint-Roch. Vraiment, on est vraiment peu connu, mais on est dans Saint-Roch, sur le parvis de l'église, presque.
Oui.
Vous êtes vraiment au
dans cœur, cœur du problème.
Je suis dans le cœur du problème. Je vois le problème changer. On est une thérapie pour hommes seulement, pour 10 hommes à la fois. Donc, c'est une toute petite thérapie basée sur le mode de vie alcoolique anonyme, narcotique anonyme. Mais c'est vraiment une thérapie volontaire. Nous, c'est juste des gens qui nous appellent et qui disent « j'ai besoin d'une thérapie ».
OK. Est-ce que les chiffres sont le reflet de ce que vous vivez sur le terrain?
Définitivement.
Ouais.
Je suis contente qu'on en parle parce que nous... Moi, ça fait 10 ans que je suis là.
Mm-hmm.
La toxicomanie a changé. Je suis allée, il y a 3 ans, à Ottawa, puis je trouvais ça tellement exotique, tu sais, presque. De voir des gens dans la rue qui dorment là, qui se piquent dans la rue, tu sais. Puis là, c'est rendu à Québec.
Vous avez vraiment vu ça changer dans la rue,
moi,
sur le day-to-day?
Je les connais, ces gars-là. C'est des gars, ça fait 10 ans que je suis là. Donc, quand je vais dans la rue, « Hey, salut, toi, ça va? » Mais tu sais, ils dépérissent, ils meurent.
C'est pas ce que je faisais il y a 10 ans, mettons. Là.
Non, mais là, le crystal meth est arrivé. Ouais. Ça, c'est devenu... c'est un fléau, le crystal meth. Là. Je l'ai su que c'est arrivé à avoir le comportement des gens dans la ville. C'est une drogue qu'on connaît pas. Qu'on ne sait pas trop comment gérer, même en tant qu'intervenant.
Ah ouais.
Au niveau de la santé publique, on fait quoi avec ces gens-là? Même la police, on est tous un peu surpris.
Est-ce que c'est arrivé très vite. Est-ce que c'est une drogue qui fait monter l'agressivité?
Je ne dirais pas que ça fait monter l'agressivité, c'est plus une question de délire.
Okay.
Oui, c'est sûr que si la police arrive puis arrête quelqu'un, puis tu sais, c'est au niveau des surdoses, c'est beaucoup plus la faute des opiacés, qui est une autre drogue, par exemple, qui est quand même très facile à trouver. Puis c'est très facile faire une surdose avec des médicaments. Le crystal meth, c'est plus au niveau ce qu'on voit, les dommages qu'on voit dans Saint-Roch, c'est vraiment ça. Mais les surdoses, ça, il y en a beaucoup des gens qui consomment cachés. Hein. On n'en parlait pas avant.
Bien là, je veux ouvrir la porte parce que, évidemment, quand on se fait la perception d'un junkie ou d'un utilisateur de drogue régulier, on voit quelqu'un qui n'a pas de domicile, on voit quelqu'un en guenille, on voit quelqu'un qui est en situation problématique, alors que, tu sais, des fois, on fait des bulletins de nouvelles puis on parle des quantités de drogue saisies puis on se dit, c'est pas vrai que c'est juste 25 sans-abri dans le secteur Saint-Roch qui sont des utilisateurs réguliers puis des junkies dans une certaine mesure. Ça va au-delà de cette image-là.
Ah, c'est partout. C'est partout. Moi, comme je vous dis, ma clientèle, c'est juste des gens volontaires. J'en prenais des détenus avant. Je le fais plus. Je le fais plus parce qu'on veut offrir des services aux gens, par exemple... une histoire classique, quelqu'un qui s'est blessé dans le dos sur un chantier ou tout ça, qui est rendu sur le chômage, tombe accro à ses médicaments.
Mm-hmm.
Il boit de l'alcool. Il n'a rien à faire de sa journée. C'est des gars qui sont habitués de travailler. Ils dépérissent, mais ils m'appellent. Ils m'appellent, ils viennent en thérapie. T'sais, j'ai pas de... C'est vraiment pas une thérapie de dernier recours comme on voit là, très Netflixé. Là. Moi, la thérapie, c'est super le fun. Les gens viennent là. T'sais, mes enfants sont là. Mon chien, il est là. Il n'y a pas de danger. C'est tout du monde volontaire. Pis c'est pas dangereux. C'est oui, c'est sérieux, mais c'est pas triste. Hein.
Avec ton expérience sur le terrain, puisque tu observes dans Saint-Roch, puis on va se le dire, c'est très centralisé dans ce coin-là, là. L'âge des gens qui consomment aujourd'hui, ça ressemble à quoi?
Ah, c'est de plus en plus jeune. Je veux dire, moi, j'en ai souvent des jeunes de 18-20 ans, là.
Qui sont à plusieurs années de consommation, j'imagine?
Ben oui, Mais avec le cristal ou avec les autres drogues, maintenant, c'est facile à être hypothéqué rapidement.
Qu'est-ce qui a fait que le crystal meth a pris cette place-là? Sa disponibilité, le fait que ce soit pas cher?
Oui, c'est sa disponibilité. Avant, il y en avait très peu ici. C'est pas cher. C'est un... C'est différent. C'est un buzz qui est différent. C'est très intense de ce que les gens m'ont décrit, effectivement. Puis ça devient un besoin rapidement. Mais tu sais, souvent, c'est associé à bien d'autres choses, là. Les gens qui consomment du cristal ne vont pas juste nécessairement consommer du cristal. Tandis qu'avant, on avait des alcooliques. Le bon vieux alcoolique, là, t'as pas mal ça. C'était suffisant.
C'était alors bière, c'était tout.
Le site d'injection supervisé, comment ça a changé les choses à Québec?
Je le vois pas. On le voit très peu. Ça change surtout au niveau des maladies. T'sais, la disponibilité, là, moi, j'en connais un que je suis allée voir mourir à l'hôpital, là. Il s'est injecté une bactérie dans le sang, là, parce qu'il n'y avait pas... Tu sais, l'eau n'est pas propre, le matériel n'est pas propre.
Ouais.
Juste au niveau des maladies, c'est dangereux faire ça. Puis quand tu fais ça dans la rue, moi, le cœur m'arrête à chaque fois. Je dis, il va se tuer, tu sais. Oui, ça l'aide, parce que ces gens-là, là, ils veulent pas nécessairement consommer aussi. Tu sais, quand tu as un intervenant puis qui dit, tu sais, ça va, tu viens là pour avoir un contact avec quelqu'un, pour rencontrer des gens qui sont là pour t'écouter. Pas nécessairement juste pour te doper, tu sais. On a une prise comme ça. Ils ne sont pas chez eux ou cachés en dessous d'un pont en train de le faire pendant ce temps-là.
Je voulais vous entendre là-dessus parce que je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux, entre autres, sur le fait que maintenant, il y avait plus de surdoses et ainsi de suite. Puis il y a des gens qui faisaient le lien direct en disant « Bon, maintenant, il y a des sites d'injection supervisés. C'est plus facile de se trouver de la drogue. C'est plus facile d'en consommer, encadré. Puis c'est pour ça qu'il y a plus de victimes. » Puis c'est peut-être le genre de raccourci que j'aurais fait il y a 10-12 ans, là, quand je faisais de la radio. Mais j'ai l'impression que la réalité, c'est pas ça nécessairement. Puis qu'il n'y a pas de lien à faire, là, parce que là, on parle du cristal meth qui est complètement autre chose.
La réalité pure et simple, c'est que quelqu'un qui va consommer, il va réussir à se trouver de la drogue.
Mm-hmm.
Ça, c'est évident. Un site d'injection supervisé, ça ne fait pas que les gens consomment plus, ça fait qu'ils consomment de manière plus sécuritaire. T'sais.
L'autre chose que je voulais vérifier, c'est que je regardais le nombre d'organismes qui se réunissaient le 31 août, puis je me disais, tabarnouche, il y en a donc bien. C'est-tu... des ressources qui se parlent beaucoup et qui échangent beaucoup. Est-ce qu'on gagne à avoir énormément de ressources qui sont comme un peu éparpillées ou ça fait peut-être partie du problème? Je me suis posé la question.
Les gens ont tendance à utiliser les thérapies, en tout cas comme moi, en dernier recours.
Mm-hmm.
Là, il faut apprendre justement à dire, il y a un problème, t'es pas hypothéqué, t'as pas tout perdu, mais on va s'en occuper avant que ça dégénère. Puis ça, il y en a de plus en plus, des gens qui veulent juste pas perdre leur emploi, puis des fois, c'est leur employeur qui m'appelle et dit « Regarde, c'est un bon Jack, mais il rentre pas, tu sais, lundi matin. » Ce qu'il nous faut aussi, là, en ce qui concerne vraiment la toxicomanie de rue, si je peux dire, c'est un continuum de services. Parce qu'en ce moment, supposons que je prends quelqu'un qui est dans la rue, puis là, la police l'arrête. Mm-hmm. On l'envoie se sevrer à l'hôpital parce que moi, dans ma thérapie, à moi, je fais pas de sevrage.
Faut que ça soit l'après.
Il y a des thérapies qui le font. Nous, on a décidé justement de se centrer sur la thérapie.
Okay.
Il me l'envoie en thérapie. Il fait sa thérapie parfaitement. C'est quelqu'un de vraiment motivé. Mais après ça, je le retourne à l'Aubrivière.
Dans le fond, il se retrouve dans un milieu où la tentation va être là, il va avoir l'accès
ouvrir,
à la proximité.
Il se le fait ouvrir à la porte. Fait que ça te prend une maudite grosse volonté.
Ben, des gens qui ont un domicile, qui ont une job, qui consomment en secret, à un moment donné, ils se ramassent en maison de thérapie.
Ils changent de cercle d'amis.
Ben, ceux qui t'offrent, à qui on parle une fois de temps en temps, c'est toujours un peu le même refrain. Faut croire qu'il n'y a pas de solution miracle, mais c'est toutes des gens qui, à un moment donné, se disent « Moi, il a fallu que je coupe avec un certain cercle d'entourage. » Puis ça veut dire éviter certains endroits, entre autres choses.
Dans la rue, c'est tough de faire ça, de couper ton cercle.
Mais c'est quoi la solution quand on parle d'itinérance puis de gens sans-abri qu'on veut essayer de sortir de ce problème-là?
C'est, comme je vous dis, un continuum de service. Continuer avec ses meetings, t'sais, si la personne choisit les alcooliques anonymes ou ça. C'est des gens qui ont besoin de beaucoup de supervision. Des places où on peut les mettre ensemble. T'sais, comme je vous dis, moi, j'ai pas de place où que quelqu'un, je l'ai pris dans la rue, J'ai dit va à Lauve-Rivière, mais ça veut pas dire qu'il va avoir une place à Lauve-Rivière. Fait que ouais. Peut-être qu'il va aller recoucher dans la rue.
Tout le monde déborde présentement?
Ah oh, oui, ils ont essayé d'ouvrir, je me rappelle pas comment ils l'avaient appelé, là, le répit là, pour ouais. itinérant, mais c'était tout le temps plein. Ils l'ont fermé, il y a des gens qui m'appelaient, ils étaient en train littéralement de mourir de froid. À Québec. Là.
Pourquoi il y a plus de sans-abri à Québec depuis 4-5 ans?
Moi, je fais le lien directement avec le cristal meth. Ouais. C'est destructeur, tu perds tout de suite. Là.
Ça a-tu rapport avec les... Il y a quelqu'un qui nous a demandé ça, je trouve pas ça fou. Peut-être que tu vas y faire un lien ou pas. Mais pour ce qui est de la scrap qu'on retrouve dans d'eau, puis cristal meth et compagnie, est-ce que c'est lié à la guerre qui se livre entre les gangs de rue, là, tout ce qu'on entend, BFM et compagnie, ou ça a aucun lien selon toi?
Bah, ça, c'est une autre histoire. Je pourrais en parler, mais c'est rentré ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais oui, il y a de la scrap qui est rentrée. Puis pour en connaître ceux qui ont rentré ça ici, ils me disent « Ouais, c'était pas ma meilleure. » Ils sont comme déçus.
Mais parce que tu scrapes ta clientèle.
Ben, tu scrapes Saint-Roch, tu scrapes une population. Tu tues des gens. Puis ils s'en rendent compte, là, parce que les gens savent pas comment consommer ça. C'est une manière de consommer, c'est une quantité. Il y a plein de choses qui sont en lien avec ça qui fait que ces gens-là, ils sont comme pas trop fiers. Faudrait l'enlever, mais là, comme je disais tantôt, quelqu'un qui veut en consommer va trouver le moyen.
Les policiers de la Ville de Québec, est-ce que c'est des alliés, des collaborateurs? Ben, c'est des gens qui font partie présentement peut-être plus du problème que de la solution.
De ceux qui doivent s'ajuster, oui.
Oui, c'est plus une question d'ajustement, je pense, parce
qu'est-ce qui manque?
Il manque beaucoup de compréhension un peu de la toxicomanie. On voit encore la toxicomanie comme quelque chose de dangereux. T'sais, moi, quand je dis que j'amorte mes enfants au travail, le monde sont là, mais voyons donc, mais non, c'est pas dangereux. T'sais. C'est des gens qui viennent s'aider. Fait, quand tu ramasses un itinérant dehors qui est en train de geler, de mourir de froid, là, un minimum de compassion, ça serait bien. Donner une étiquette, ça n'aide personne. T'sais.
Ouais.
Puis là, c'est ça qu'on fait. Je sais qu'il y avait des policiers là, qui s'étaient mis à donner des étiquettes pour possession de matériel de consommation, mais c'est sûr qu'ils en possèdent. Tu sais, c'est
souvent c'est ce qui les amenait à la rue.
Ouais,
c'est dur de distinguer les deux.
Puis la police fait un très bon travail, mais on a tous été pris par surprise. Même moi, quelqu'un, tu sais, je passe dans Saint-Roch, j'adore Saint-Roch, je suis tout le temps là, mais quand je passe à côté de quelqu'un qui a consommé du cristal meth, tu sais,
ben, je l'ai raconté à quelques reprises. Moi, je suis un gars qui marche beaucoup. Je marche beaucoup la ville. Puis mon spot de marche, c'est Saint-Roch. Puis je l'ai vu changer dans les 4-5 dernières années. Je disais que c'était de plus en plus fréquent à n'importe quelle heure, pas à 3 heures du matin, mais tu te promènes à 10 heures le matin, le lundi, puis tu vas voir des gens en situation de crise qui sont qui semblent agressifs à tout le moins, puis tout ça. Quand c'est visible comme ça que quelqu'un est à côté de la traque...
C'est moins évitant.
Oui, c'est moins évitant d'une part, mais je me demande toujours, tu sais, un policier arrive, qu'est-ce qu'il fait avec un gars qui semble agressif, qui crie ou n'importe quoi? C'est pas nécessairement évident de trouver la bonne approche, là.
Puis même si tu décides que tu sautes dessus, que tu te bats avec, que tu l'arrêtes...
ça donnera pas grand-chose.
Ça
chose.
Donne rien. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que ces gens-là, il faut le prendre. Faut lui donner des services. Faut l'envoyer à l'hôpital. Mais faut être sûr que quand on a fait tout ça, là, puis que ça nous a pris 2 mois, on lui dit « Regarde, on va t'envoyer dans une place qui est en sécurité. »
Mais en avez-vous de l'aide, c'est de la ville, du gouvernement, je sais pas, parce que tu dis tout ça, puis les solutions, c'est sûr qu'elles sont faciles à nommer, mais l'hôpital, il n'y en a pas de place. L'urgence est tout le temps pleine, c'est le bordel.
Ouais.
Je veux dire, des services, visiblement, vous en manquez aussi. Oui. Fait qu'est-ce qu'il y a une certaine aide? Avez-vous de l'espoir, vous autres?
J'ai beaucoup d'espoir en étant ici, qu'on se fasse écouter, puis qu'on se fasse comprendre qu'on n'a pas à se rendre jusque-là. Là, c'est sûr, comme nous, on a des travaux majeurs à faire. Puis la Ville ne reconnaît pas qu'on est un organisme sur leur territoire. Ils ne nous offrent pas de subventions. Donc, il faut qu'on... Tu sais, moi, je suis criminologue, en fait. Je suis thérapeute. Ça fait 10 ans, puis là, j'ai pris le poste de directrice. Puis il faut toujours que je tête d'argent, tu sais.
Ouais.
Au lieu d'être dans la rue avec mes gars, tu sais, d'aller les aider, d'aller les chercher, il faut que je me fasse de la pub à moi-même.
Mais je suis un peu surpris d'entendre ça, parce que le contexte de l'arrivée du maire Marchand à l'Hôtel de Ville, c'est un contexte où il y avait... promis un objectif d'itinérance zéro. Moi, dans ma tête, pour atteindre cet objectif-là, c'était de travailler en collaboration avec tous les organismes sur le territoire. Un, pour bien comprendre les besoins. Mm-hmm. Puis deux, ça devient une nécessité d'investir aussi dans ce genre de thérapie-là pour essayer de repousser les gens vers une vie active.
Oui, mais faudrait justement. Je peux pas dire qu'ils n'ont rien fait. Il y a des choses qui ont été mises en place, mais c'est super difficile avec... comme je dis encore, la surprise qu'on a eue,
ouais,
de gérer ça.
Fait que tout le monde a été pris de court par ça.
Oui, oui, oui.
Par le Rod Marie.
Si moi, j'ai été pris de court dans Saint-Roch alors que ça fait 10 ans que je suis là, là.
Mais la Ville de Québec n'est pas la première ville à subir une crise comme ça. On l'a vu à plus grande échelle du, ouais, côté de Vancouver. Il y a certaines villes aux États-Unis où le problème s'est installé il y a quelques années. Est-ce qu'il y a des endroits où tu dis... eux, ils ont bien fait les choses. Voici comment il faudrait faire pour essayer de se sortir,
ouais,
de la situation.
Qui ont réussi,
y a-t-il des modèles qui, hein, sont intéressants?
Mon Dieu, ça, à part le continuum de services, il y a des modèles, par exemple.
Mais est-ce
le,
que quelqu'un
le
l'a appliqué
et
ça a bien
fonctionné? Je trouve que là, on parle beaucoup contre les alcooliques anonymes, par exemple. Nous, on est basé là-dessus, alcooliques anonymes, à l'anon aussi, parce que là, on parle des toxicomanes, mais on parle pas de leurs proches.
Mm-hmm.
La maman qui m'appelle en larmes, là, faut que je dise, va faire du Al-Anon. Al-Anon, c'est pour les proches des parents.
OK.
Ben, les proches des personnes alcooliques ou toxicomanes. Donc, que ce soit ton fils, ta mère, tu sais, n'importe
les
qui.
Les victimes du comportement, là, dans le fond. Là, ouais.
Les victimes de la consommation.
Mm-hmm.
Puis là, on se fait mettre des bâtons dans les roues, par exemple, louer des salles pour faire des meetings anonymes, parce que c'est là que les gens vont. Mm-hmm. Quand ils sortent de thérapie, là, même si tu retournes dans un chez-toi puis que tu n'as pas personne pour en parler, faut que tu ailles à tes rencontres anonymes. C'est là que les gens sont. Mais on ne peut plus louer de salles. Ça coûte une fortune, louer des salles. Tu sais, c'est plein de choses comme ça que même nous, on a des petits bâtons dans les roues. Mais il faut, à un moment donné, être capable de dire « Oui, on vous reconnaît, même si vous êtes communautaire. » Tu sais.
C'est quoi le modèle Minnesota dont tu
parles? Le modèle Minnesota, c'est le modèle des 12 étapes, là, des alcooliques anonymes.
Okay.
Ouais, c'est vraiment 12 étapes. Là. Les gens associent vraiment ça à quelque chose de religieux.
Ben, c'est à cause de l'étape 4 ou 3, là, de reconnaître quelque chose de
une
plus grand que soi ou
moi,
whatever.
Souvent,
là, ouais,
les jeunes qui rentrent là et qui paniquent là-dessus, là, je leur dis « Regarde, t'es arrivé ici, t'as-tu de l'espoir en quelque chose? » Non. Ben, je veux juste te donner de l'espoir.
Ouais.
Le concept de puissance supérieure, si tu dis « Je veux juste te donner l'espoir que ça peut aller mieux », ben, c'est déjà suffisant, tu sais.
Mm-hmm.
Puis on vit avec ça. On n'est pas des prêcheurs, là, tu sais. On veut vraiment juste que quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre qui l'a vécu puis qui s'en est sorti.
Tu as parlé de l'entourage. Est-ce, oui, que la solitude fait partie des problèmes actuellement? Parce qu'il y a eu des reportages là-dessus, des gens qui s'isolent de plus en plus, mm-hmm, puis perdent contact avec leur famille,
oui,
avec leurs amis.
Avec ceux qui promenaient du support, dans le fond.
Oui, embarquent dans une spirale sur les réseaux sociaux, whatever, puis perdent leur contact avec la réalité,
oui,
et la drogue embarque là-dedans, puis ainsi de suite. Ça, c'est-tu un phénomène que vous avez observé, ça?
Oui, bien oui,
ouais,
c'est sûr. T'sais, par exemple, je disais tantôt, les gens qui sont sur le chômage, pendant le COVID, ça s'est vu aussi. On connaît tout quelqu'un qui s'est mis à abuser de l'alcool, mm-hmm, parce qu'il est isolé.
Mm.
Supposons les gens sur l'aide sociale ou les personnes âgées vont avoir plus de tendance, que ce soit des médicaments aussi. On oublie souvent les médicaments. Là, on parle des grosses drogues, les médicaments, l'alcool. Il y a plein de choses qui font que tu peux venir en thérapie, mais les alcooliques anonymes sont là pour accueillir n'importe qui rentre. T'sais. Puis ça, on en a besoin parce que un psychologue, ça peut être long avant d'avoir un rendez-vous.
Est-ce que la COVID vous en a envoyé du monde dans la rue?
Dans la rue? Ben nous, on a été fermés pendant la COVID.
Non. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que la situation qu'on a vécue ensemble, mmh, pendant la COVID, ça a-tu fait que des gens se sont déréglés au point de contracter des habitudes de consommation,
oui. Ah, oui.
Des addictions, puis ainsi,
oui,
de suite? Oui, hein?
En masse.
Ouais, c'est pas un beau constat pour une ville comme Québec.
Triste, là.
Ah oui, c'est ça que je disais. Puis faut arrêter de penser en termes criminels puis dangerosité. Ce qui se passe dans Saint-Roch en ce moment, c'est triste.
Ouais.
Tu sais, moi, j'arrive là le matin, puis souvent, je m'en vais chercher la poste, puis j'en vois à terre, là. Tu sais, quand c'est l'hiver, là, tu dis, es-tu mort?
Mm-hmm.
Je le réveille-tu pour voir s'il est mort?
Ouais.
C'est rendu ça.
Mais ça se peut-tu que les gens soient hypocrites avec ce problème-là? Puis moi, je vais être le premier à plaider coupable. En, ouais, toute honnêteté, je suis pas mieux qu'un autre. Souvent, quand c'est un problème qui fait pas de bruit, on essaye juste de faire semblant,
ouais,
qu'il n'existe pas.
Ouais.
Mais là, avec le crystal meth, avec les gens qui sont plus en délire, mettons, mm-hmm, là, c'est un problème qui commence à faire du bruit. C'est un,
oui,
problème qui commence à être présent. On l'a d'en face. C'est pas compliqué.
Ben, c'est
là.
Pour ça que ça fait 10 ans que je suis là, puis c'est la première fois qu'on me demande une entrevue, tu sais.
Ouais.
Parce qu'on ne le voyait pas avant. Fait qu'on, mm-hmm, disait la ville,
on
Québec,
pas le
c'est
voir,
propre.
Hein.
Mais
ouais,
non, moi, j'en connais, je pourrais même pas vous dire combien qui sont morts.
On mettait ça en dessous du, ouais, en dessous du tapis.
Tu vois-tu le bout?
Quoi?
Tu vois-tu le bout?
Ah oui, mais tu sais, là, on parle de la tristesse, mais il y a tellement de gens qui vont bien, tu sais, que j'ai connus. Puis
il y a des beaux cas que tu vois qui s'en sortent, qui deviennent fonctionnels.
Regarde, on en a un là, il a un an et demi, il est rentré, il était hypothéqué, il vient de s'inscrire à l'université, là, il est en train de faire ses cours.
C'est quoi? J'imagine que ça doit être dur de tenir un range de statistiques ou de chiffres, mais ouais. C'est quoi le pourcentage de gens qui s'en sortent puis que vous êtes capable de repartir par en avant?
Eh mon Dieu, ça c'est une question...
À peu près.
Je me posais la moitié, quand j'étais moyen en cours.
La moitié, moins, je plus?
Je le sais pas. Non? Je le sais pas parce qu'il faut définir c'est quoi la réussite. T'sais, c'est-tu quelqu'un qui reste sur l'aide sociale toute sa vie puis qui consomme pas puis qui fait rien? C'est-tu quelqu'un qui continue de fumer du pot mais qui a arrêté la cocaïne? T'sais? Moi, j'en vois beaucoup. Je peux pas te dire c'est qui réussit parce que la majorité, il y en a... Nous, notre thérapie, elle coûte presque rien. Hein. Mm-hmm. Donc, on a du monde partout du Québec. J'ai pas de nouvelles. Dans les 800 gars que j'ai vus de ma vie... Je les croise dans les meetings, je les croise quand ils viennent me voir. Des fois, j'ai des nouvelles des autres, mais je ne le sais pas. Ils ne communiquent pas avec nous.
Un coup qu'ils sont ailleurs, ils sont ailleurs.
Oui, ils sont rendus. Hein. Ils comprennent. Puis des fois, il y en a qui rechutent 2-3 fois, mais ils savent où aller, ils savent quoi faire.
Sur le côté humain, c'est-tu dur, ça? D'aider des gens, puis après ça, de comme les perdre de vue, puis de ne pas savoir ça va-tu mieux, ça va-tu moins bien. Est-ce qu'on a le temps de créer des liens avec ces gens-là?
Ben oui, ils sont là pendant 30 jours fermés. Ouais, ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, donc on les connaît très bien. Oui, c'est dur, surtout dans le cas d'un suicide, quelque chose comme ça. Il y en a qui se suicident en sortant. On se dit, on aurait-tu pu faire quelque chose de plus? Mais ça fait partie de la maladie. Hein. Faut qu'on appelle ça une maladie. C'est extrêmement triste, mais il y en a qui s'en sortent. Puis ça, c'est vraiment... le point qu'il faut garder, c'est possible de s'en sortir.
Est-ce que la toxicomanie, c'est un problème de gars, essentiellement? Dans les chiffres, les gars sortent beaucoup.
Non.
Non?
Non, c'est pas un problème juste de gars. Les femmes vont avoir tendance à consommer autre chose.
C'est ça, c'est pas le même genre de consommation, non. C'est pas le même genre de toxicomanie.
C'est quoi la différence, mettons, globalement?
Plus de médicaments chez les femmes. OK. Beaucoup. Okay. Plus de médicaments, plus de... ils vont avoir des amis, tu sais, ils vont être capables d'en parler, par exemple, aller faire une thérapie avec une travailleuse sociale ou quelque chose de même. Un gars, lui, il va se rendre jusqu'à se faire enfermer un mois. Mm-hmm. Puis là, tu sais, c'est plus ça la différence. Les femmes vont chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide avant. Mais c'est pas juste un problème d'homme.
Si vous vous reconnaissez là-dedans, que ce soit dans votre consommation ou dans la consommation de quelqu'un que vous connaissez, maisonarcenciel.org, oui. Avec des traits d'union entre chaque mot, là, maison, oui. Traits d'union, arc, traits d'union, et ainsi de suite, .org.
Oui.
Bravo pour votre engagement, 10 ans à pas voiler un phénomène comme celui-là. Nous autres, on a malheureusement cette triste liberté-là de dire... On va marcher dans Saint-Roch, on voit la misère, puis après ça, on s'en retourne chez nous. C'est plate, mais c'est ça, là, je veux dire, pour ben des gens. Puis c'est un problème qui a augmenté. Je suis content parce qu'on a des pistes de réflexion qu'on n'avait pas il y a une demi-heure. L'histoire du Crystal Meth et tout ça. Ouais. Le fait que tous les services aient été pris un peu par surprise, par cette nouvelle explosion-là. Ça permet peut-être quelques pistes de réflexion. Puis,
peut-être de solutions, même.
Oui, espérons-le, à tout le moins. Merci, Rachel Genet.
Ça fait plaisir.
Maisonarcenciel.org, ça existe depuis 1979. Ça aide les hommes de 18 ans et plus à se libérer de la dépendance à l'alcool et aux drogues, des problèmes, malheureusement, qui semblent de plus en plus répandus à Québec. Hey, on est à 5 minutes de 16 heures, les amis. Quoi que ce soit, sur les routes ou ailleurs, 418-971-1021. Vous en avez des histoires à partager. Habituellement, vous le faites sans filtre. Gênez-vous pas, c'est le même numéro. 418-971-1021. On écoute la plus récente de Cage, The Elephant, qui s'appelle Rainbow, justement.